Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Voici une série d'émissions consacrées aux lettres des pères du désert, le plus souvent adressées à leurs moines et concernant la vie d'anachorète, c'est-à-dire seul au désert, ou celle de cénobite, c'est-à-dire vivant dans un monastère. Ces écrits sont d'une grande fraîcheur, malgré les quelques 15 siècles qui nous séparent d'eux, et d'une grande utilité pratique pour ceux qui désirent suivre le chemin du Christ. Ils nous incitent à l'humilité pour s'opposer radicalement à l'orgueil de Satan. Ils nous incitent aussi à l'amour sans limite pour entrer dans le royaume dès ce siècle.
Nous avons traité à notre dernier rendez-vous de l'humilité et du discernement. Nous poursuivons sur le discernement des pensées, des passions et des vertus pendant deux émissions, point clé dans l'œuvre de Saint Jean Climac.
Discernement. Certes, si celui qui a changé la mer en terre ferme est vraiment en nous, notre Israël, lui aussi, je veux dire notre esprit qui contemple Dieu, traversera sûrement cette mer à l'abri des flots et nous verrons les Égyptiens sombrer dans la mer des larmes. Mais s'il n'a pas encore fait sa demeure en nous, qui pourra affronter le fracas des flots, c'est-à-dire de notre chair? Si Dieu se lève en nous par nos actions, ses ennemis seront dispersés. Et si nous nous approchons de lui par la contemplation, ceux qui le haïssent s'enfuiront de devant sa face et de la nôtre. Efforçons-nous d'apprendre les choses divines plus par nos travaux et par nos sueurs que par de simples paroles. En effet, au moment de notre mort, ce sont des actes et non des mots qu'il faudra présenter. L'endurcissement du cœur vient parfois de l'excès de nourriture, vient souvent de l'insensibilité ou d'un attachement. Et l'attachement à son tour vient tantôt de la luxure, tantôt de l'avarice, tantôt de la gourmandise ou de la vaine gloire ou de beaucoup d'autres choses. La malice vient de l'orgueil et de la colère. L'hypocrisie vient de la complaisance en soi-même et de la libre disposition de soi-même. Je dirais simplement que contre toutes les passions dont nous avons parlé, le remède est l'humilité. Ceux qui ont obtenu cette vertu les ont toutes vaincues. Ce sont la volupté et la malice qui engendre tous les vices. La maladie a parfois pour but de nous purifier des péchés et parfois d'humilier notre esprit. Tout ce qui nous arrive de visible et d'invisible peut être accueilli par nous dans une bonne, une mauvaise ou une moyenne disposition. J'ai vu trois frères subir un dommage. Le premier se mit en colère, le second contint son chagrin, et le troisième récolta une grande joie. J'ai vu des cultivateurs semer une semence identique, mais chacun avait un but particulier. L'un pensait à acquitter ses dettes, un autre désirait s'enrichir, un autre voulait honorer le Seigneur de ses offrandes, un autre souhaitait être loué pour son bon travail par ceux qui passaient sur le chemin de la vie. Un autre voulait affliger son ennemi qui l'enviait. Un autre ne voulait pas que les hommes l'accusent de paresse. Et voici le nom des graines semées par les cultivateurs. Jeûne, veille, aumône, service et autres choses semblables. Quant au but, que les frères les examinent avec soin dans le Seigneur. Quand nous tirons de l'eau à la fontaine, nous ramenons parfois une grenouille sans en apercevoir. De même, quand nous travaillons à pratiquer les vertus, nous cherchons souvent à satisfaire des vices qui sont imperceptiblement entrelacés avec elles. Par exemple, la gourmandise se mêle à l'hospitalité, la luxure à l'amour, la ruse au discernement, la malice à la prudence, la duplicité, la lenteur, la paresse, la contradiction, la libre disposition de soi-même et la désobéissance se mêlent à la douceur, le mépris de l'enseignement au silence, l'orgueil à la joie, l'indolence à l'espérance, le jugement téméraire encore à la charité, l'acédie et la paresse à l'ézichia, l'amertume à la chasteté, la liberté d'allure à l'humilité. Et avec chacune des vertus, nous trouvons, les recouvrant toutes comme un emplâtre, ou plutôt comme un poison, la vaine gloire. toujours à propos du discernement. Tous ceux qui demandent et n'obtiennent pas de Dieu l'accomplissement de leurs requêtes, cela leur arrive toujours pour l'une des raisons suivantes, ou parce que leur demande est prématurée, ou parce qu'elle est injustifiée ou inspirée par la vaine gloire, ou encore parce qu'ils s'enorgueilliraient d'être exaucés, ou enfin parce qu'ils deviendraient négligents après avoir obtenu ce qu'ils demandent. Que les démons et les passions se retirent de l'âme, soit pour un temps, soit pour toujours, je pense que personne n'en doute, mais bien peu savent pour quelles raisons ils nous quittent. La matière des passions est détruite par le feu divin. Et lorsque cette matière a été radicalement détruite et notre âme purifiée, les passions se retirent, à moins que nous ne les attirions de nouveau par une vie sensuelle et le relâchement. Les démons nous quittent volontairement pour nous inciter à l'insouciance et ravir ensuite soudainement notre âme misérable. J'ai vu encore une cinquième manière dont l'impassibilité s'établit dans l'âme. Elle procède alors d'une grande simplicité et d'une louable innocence. Il est juste, en effet, que Dieu vienne en aide à ces âmes, lui qui sauve ceux qui ont le cœur droit, et les libère de leurs vices sans qu'elles s'en rendent compte, comme les petits-enfants qu'on déshabille n'en ont pas conscience. Il n'y a, du fait de la nature elle-même, ni vice ni passion dans la nature. Dieu, en effet, n'est pas le créateur des passions, mais il y a en nous beaucoup de vertus naturelles qui viennent de lui. De ce nombre sont manifestement les suivantes: la miséricorde, car même les païens sont compatissants, la charité, puisque souvent même des animaux sans raison pleurent la perte des leurs, la foi, car nous l'engendrons tous en nous-mêmes, l'espérance, car même nous, les baptisés, nous prêtons, nous vendons et nous semons, espérant le plus grand profit. Si donc, comme nous l'avons montré, l'amour est en nous une vertu naturelle, et s'il est le lien et la plénitude de la loi, il s'ensuit donc que les vertus ne sont pas éloignées de la nature. Qu'ils rougissent donc ceux qui prétextent leur impuissance à les pratiquer. Au-dessus de la nature sont la chasteté, l'absence de colère, l'humilité, la prière, l'éveil, le jeûne et la componction continuelle. Certaines de ces vertus nous sont enseignées par les hommes, d'autres par les anges. Quant aux autres, le maître et le donateur en est le Verbe de Dieu lui-même. Il est impossible à ceux qui n'ont pas d'abord vécu dans l'obéissance d'obtenir l'humilité. Quiconque, en effet, veut apprendre un art en ne suivant que sa fantaisie s'illusionne. Ne cessons jamais de nous examiner sur toutes les passions et sur toutes les vertus. Où en sommes-nous? Au commencement, au milieu ou au terme? Tous les combats que nous livrent les démons proviennent de ces trois causes: l'amour du plaisir, l'orgueil ou l'envie des démons. Ces derniers sont des combats bienheureux. Les seconds sont très misérables et les premiers sont à jamais sans profit. Une chose est la vigilance sur les pensées, une autre la garde de l'esprit. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant la seconde est élevée au-dessus de la première et plus difficile à atteindre. Une chose est de prier pour être délivré des pensées, une autre de les contredire et une autre de les mépriser et de passer par-dessus. De la première attitude nous rend témoignage celui qui dit « Ô Dieu, sois attentif à me secourir » et d'autres choses semblables. De la seconde, celui qui déclare « À ceux qui m'injurient, j'opposerai une parole. » De même, que ceux dont le sens de l'odorat est sain peuvent déceler ceux qui tiennent des parfums cachés. Ainsi l'âme pure discerne-t-elle chez les autres aussi bien la bonne odeur qu'elle a elle-même obtenue de Dieu, que la puanteur dont elle a été libérée, bien que cela ne soit pas perceptible aux autres.
Compasión de nosotros.
Poursuivons avec le discernement. Faisons donc bien attention, je vous prie, et cherchons à chaque moment ce qui convient à ce temps. Il est certain en effet que pour ceux qui combattent, il y a un temps pour l'impassibilité et un temps pour la domination des passions. Je dis cela pour les combattants qui font leur apprentissage. Il y a un temps pour les larmes et un temps pour la dureté du cœur, un temps pour obéir et un temps pour commander, un temps pour jeûner, et un temps pour prendre part au repas, un temps pour combattre le corps, notre ennemi, et un temps où le feu est mort, un temps de tempête pour l'âme, et un temps de calme de l'esprit, un temps de tristesse du cœur, et un temps de joie spirituelle, un temps pour enseigner, et un temps pour écouter, un temps pour les souillures, peut-être à cause de notre orgueil, et un temps de purification par l'humilité. Un temps pour le combat, et un temps de trêve loin du danger. Un temps pour l'ézikia, et un temps pour se livrer sans distraction à l'activité. Un temps pour la prière continuelle, et un temps pour le service sincère. Ne nous laissons donc pas abuser par un zèle orgueilleux qui nous pousserait à rechercher avant le temps ce qui viendra en son temps. C'est-à-dire ne cherchons pas en hiver ce qui doit venir en été, ou au temps des semailles, ce qui doit venir au temps de la moisson. Car il y a un temps pour semer les labeurs, et un temps pour récolter les ineffables dons de la grâce. Autrement, même le temps venu, nous ne recevrons pas ce qui est propre à ce temps. Par une ineffable économie, certains ont reçu les saintes récompenses de leur labeur avant d'avoir travaillé, d'autres durant leurs travaux, d'autres après, et d'autres à l'heure de la mort. Cherche lequel d'entre eux devient le plus humble. Il est un désespoir qui résulte d'une multitude de péchés, d'une conscience chargée et d'un insupportable chagrin, quand l'âme est couverte d'une multitude de blessures et sous ce poids s'enfonce dans l'abîme du désespoir. Il est une autre sorte de désespoir qui nous vient de l'orgueil et de l'estime de nous-mêmes quand nous pensons que nous ne méritions pas de tomber comme nous l'avons fait. Un observateur attentif remarquera les traits particuliers de chacun. Le premier nous porte à nous abandonner désormais à l'indifférence. Le second nous maintient dans la cèse au sein du désespoir, et bien que cela paraisse ne servir à rien. Le premier pourra être guéri par l'abstinence et une fidèle espérance, et le second par l'humilité et en ne jugeant personne. Aie pour principe et pour règle de te demander si ce que tu fais est selon Dieu. Par exemple, quand nous sommes des débutants et que nous entreprenons quelques tâches, si cette action n'augmente pas l'humilité dans notre âme, alors qu'elle soit grande ou non, il me semble que nous ne l'accomplissons pas selon Dieu. Aie toujours pour principe et pour règle de te demander si ce que tu fais est selon Dieu. Par exemple, quand nous sommes des débutants et que nous entreprenons quelques tâches, si cette action n'augmente pas l'humilité dans notre âme, alors qu'elle soit grande ou non, il me semble que nous ne l'accomplissons pas selon Dieu. Le péché est une chose, la paresse une autre, la négligence une autre, la passion une autre, et la chute une autre encore. Que celui qui est capable d'approfondir ces choses dans le Seigneur en cherche l'éclaircissement. Celui qui est parfaitement purifié voit l'âme de son prochain, non en elle-même, mais quant aux dispositions où elle se trouve. Le progressant, lui, juge de l'état de l'âme d'après le corps. L'œil de l'âme est spirituel et d'une extrême beauté. Il surpasse tout, sauf les natures angéliques. C'est pourquoi, même ceux qui sont dominés par les passions peuvent souvent connaître les pensées dans les âmes des autres à cause du grand amour qu'ils leur portent. Et cela surtout s'ils se sont plongés dans les souillures de la boue. Que ceux dont l'âme est infirme reconnaissent la visite de Dieu dans les afflictions du corps, les dangers et les tentations extérieures. Les parfaits la reconnaissent à la présence en eux du Saint-Esprit et à l'accroissement des dons spirituels. Il est un esprit mauvais qu'on appelle le précurseur qui nous assaille aussitôt que nous nous éveillons du sommeil pour souiller notre première pensée. Donne au Seigneur les prémices de ta journée, car elle appartiendra à celui qui en aura pris la possession le premier. Un excellent travailleur m'a dit cette parole mémorable. D'après le début de ma journée, je sais quel en sera tout le déroulement.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène. À son prochain rendez-vous, elle continuera et terminera le discernement des pensées, des affects et des vertus avec Saint Jean Climac.